Cap Sport.
Après la Coupe du Monde, place à la Ligue des Nations. L'équipe de Suisse de football va découvrir une toute nouvelle compétition dès demain. Et le public pourrait bien voir un nouveau visage de la Nati. Focus sur l'automne des joueurs de Vladimir Petkovic avec notre envoyé spécial. On prendra aussi la direction des Grisons. Lenzerheide semble être le paradis des vététistes suisses. Il brille à domicile depuis mercredi au championnat du monde. Marcel Neuenschwander nous décrira l'ambiance sur place. Et puis après les sentiers, il sera temps d'aller dans les ronds de Sieur. La fête fédérale de lutte féminine se tient ce week-end dans le Jura bernois. Les régionales s'y mettent aussi. On le verra en fin d'émission.
Cap Sport, Mathieu Schaffner.
Bonsoir, c'est donc l'heure de la grande rentrée pour l'équipe de Suisse de football. La Nati affronte l'Islande, demain coup d'envoi à 18h à Saint-Gall. Et attention, il ne s'agit pas d'un match amical, non, c'est le début d'une toute nouvelle compétition, la Ligue des Nations. C'est peut-être aussi le début d'une nouvelle ère pour la Nati. On va en parler avec vous, Julien Traxel, vous êtes notre envoyé spécial auprès de l'équipe de Suisse pour cette reprise. Bonsoir.
Bonsoir Mathieu.
Mais juste avant de venir vers vous, on va quand même faire un peu la lumière sur cette fameuse Ligue des Nations. C'est Jean-Paul Picci qui nous éclaire.
La Ligue des Nations est donc une nouvelle compétition qui réunit les 55 associations membres de l'UEFA. Elles ont été réparties dans 4 ligues, A, B, C et D. Et dans chacune des ligues, il y a 4 groupes de 3 ou 4 équipes. Les sélections les plus fortes, comme la France, l'Allemagne, le Portugal, mais aussi la Suisse, figurent dans la Ligue A. Et les moins bonnes dans la Ligue D, comme le Luxembourg, Malte ou le Kosovo. Cette Ligue des Nations se joue de septembre à décembre de cette année. À l'issue de la compétition, les vainqueurs de chaque groupe sont promus dans la Ligue supérieure et les derniers sont relégués dans la Ligue inférieure. Quant aux 4 premiers de la Liga, la plus forte, ils disputeront une phase finale en juin 2019 qui déterminera le champion, un titre honorifique et pécunier avant tout.
Voilà, on y voit un peu plus clair. Il faut dire aussi que la Ligue des Nations, elle a un lien avec l'Euro 2020.
Oui, mais il faut tout d'abord bien préciser que la formule pour se qualifier à l'Euro ne change pas. De mars à novembre de l'an prochain, la phase de poule réunira ces 55 mêmes équipes qui seront réparties dans 10 groupes où les 2 premiers iront à l'Euro. Donc, 20 pays se qualifieront via ces éliminatoires. Il restera alors 4 places à pourvoir qui seront attribuées par les barrages de la Ligue des Nations qui auront lieu en mars 2020 à 2 mois du début de l'Euro.
Et attention, c'est là que ça se complique.
Clairement, les 4 meilleurs équipes de chacune des ligues vont se défier entre elles pour obtenir leur ticket. Il y a donc une place à prendre dans la Ligue A, une dans la Ligue B, idem dans les Ligues C et D. Ces places de barrage sont attribuées dans un premier temps aux vainqueurs de chaque groupe. Logique. Mais si ces équipes ont déjà obtenu leur ticket pour la phase finale de l'Euro, alors ces places sont attribuées à l'équipe suivante la mieux classée dans le même groupe et ainsi de suite. Prenons l'exemple suivant. Si la Suisse n'arrive pas à se qualifier pour l'Euro via la phase éliminatoire classique, mais qu'elle termine première de son groupe de la Ligue des Nations, elle aura une deuxième chance de se qualifier pour l'Euro via ses barrages. Et autre particularité de ce système, il donnera un ticket à une petite nation du football, car une équipe dite faible qui figure dans la Ligue D, comme par exemple l'Azerbaïdjan ou les îles Féroé, pourra jouer l'Euro 2020.
Voilà, on l'a donc compris, la Suisse peut se servir de cette Ligue des Nations pour accéder à l'Euro 2020, une sorte de rattrapage finalement en cas d'échec dans les qualifications traditionnelle. Alors Julien Traxel, est-ce que la Nati prend vraiment au sérieux cette nouvelle compétition ?
Sur le principe et dans le discours aussi des joueurs ou du sélectionneur, on a envie de dire oui. L'enjeu sportif est tout de même assez relatif au niveau de cette nouvelle Ligue des Nations, mais il y a un certain prestige, notamment dans la Ligue A qui réunit les 12 meilleures équipes du continent, dont fait partie la Suisse. Et on sait que les équipes aiment se tirer la bourre, aiment aussi remporter des matchs importants contre des grosses nations. Ce sera le cas de la Suisse. Maintenant, on entre dans un nouveau cycle pour la Nati. Vladimir Petkovic, le sélectionneur national, l'a dit. Il va effectuer plusieurs tests cet automne avec une volonté en fond de toile de rajeunir l'effectif, d'où certaines nouvelles arrivées, dont le Genevois Kevin Mbabou, qui auront du temps de jeu. Là aussi, il l'a confirmé, Vladimir Petkovic. En tout cas, ce qui est sûr, disons que demain soir, on devrait avoir passablement de réponses sur l'implication qu'aura l'équipe l'équipe de Suisse dans cette toute nouvelle compétition.
Oui, cette toute nouvelle compétition où la Suisse figure dans un groupe de trois avec l'Islande et la Belgique. Julien, on peut déjà dire que c'est faux pas interdit demain affronter l'Islande. Si on veut terminer en tête, on doit gagner.
Ah, c'est sûr qu'une défaite d'entrée, qui plus est à domicile, ce serait compromettant pour l'équipe de Suisse, en tout cas en vue d'une première place dans ce groupe. Surtout que l'Islande, en plus, semble sur le papier tout du moins être peut-être l'équipe la plus abordable. Et puis derrière, ça signifiera qu'il faudra aller battre par deux fois la Belgique, aller gagner aussi en Islande. Et on sait que c'est toujours très compliqué d'aller s'imposer. Et puis au-delà de l'aspect comptable assez important, c'est vrai que l'équipe de Suisse aurait intérêt à obtenir un résultat positif devant son public pour ce premier match de l'après-Coupe du Monde. Il y a eu un certain échec, entre guillemets, lors de ce mondial russe. Et la Suisse serait bien inspirée de corriger le tir, ou en tout cas de s'imposer finalement devant son public pour remettre la barre un petit peu plus haute.
C'est assez rare finalement d'affronter quatre fois des grandes équipes en l'espace de deux mois. Est-ce qu'on doit voir cette Ligue des Nations comme un révélateur pour l'équipe de Suisse ?
Tout dépendra, honnêtement, tout va dépendre déjà de la manière dont l'équipe de Suisse va aborder cette compétition. On l'a dit, on devrait en savoir plus dès demain soir. Et puis ça va aussi dépendre de la manière dont les adversaires de l'équipe de Suisse vont aussi aborder cette compétition. Est-ce que tout le monde sera à 100%? Difficile à dire, on est en début de nouveau cycle. On l'a dit, en vue de l'Euro 2020 pour tout le monde. Et puis ce sera vraiment le début des éliminatoires au printemps qui lancera les choses sérieuses. Donc à voir vraiment si les équipes vont toutes jouer le jeu à 100%. Et puis pour la Suisse, on continue à penser que le vrai test, le vrai révélateur reste de franchir un cap dans une grande compétition internationale. C'était notamment l'objectif de la dernière Coupe du Monde, franchir un cap, soit dit, ce qui signifiait aller en quart de finale. Cet objectif n'a pas été atteint. Donc l'Euro 2020 aura peut-être plus une valeur de révélateur que cette Ligue des Nations à proprement dire.
Vous parlez de nouveaux cycles, c'est effectivement souvent l'occasion, une saison post-Coupe du Monde, de se renouveler, en tout cas au niveau d'une sélection. Mais là, Julien, il y a finalement que deux petits nouveaux. Il y a Kevin Mbabou, il y a Albian Ayeti. Allez, on peut en mettre un troisième avec Djibril Sow, mais ça s'arrête là, ce renouvellement de l'équipe de Suisse.
Ouais, c'est effectivement difficile de parler de renouveau. Il y a peut-être une page qui se tourne quand même dans cette équipe nationale, avec les retraites internationales de Valon Berami surtout, mais aussi de Gelson Fernandez dans une moindre mesure. Et puis, on le disait tout à l'heure, il y a cette volonté aussi de Vladimir Petkovic de rajeunir l'effectif, entre guillemets. Quels seront donc les rôles d'anciens cadres de cette formation, des cadres expérimentés comme Stéphane Lichtsteiner ou Johan Djourou? Et puis, il y a aussi une période de transition, on va l'appeler comme ça, avec plusieurs incertitudes autour de l'équipe, autour de son comportement aussi. Comment est-ce que les joueurs vont gérer un départ typiquement d'un Valon Berami qui était très important dans le vestiaire? À ce niveau-là, l'automne 2018 sera très important et sera plein d'enseignements pour l'équipe nationale. Et puis, deux, voire trois nouveaux joueurs dans cette équipe de Suisse seulement, oui et non, on parle quand même de la Suisse à quelque part, ça reste un petit pays et son réservoir de joueurs de calibre international reste quand même assez restreint. Donc une page qui se tourne plus qu'un renouvellement.
Ce renouvellement ou cette page qui se tourne, est-ce que finalement il ne faut pas l'attendre d'un point de vue plus tactique, notamment dans le secteur offensif où on a vu une équipe de Suisse quand même à la peine ces derniers mois? Est-ce que ce n'est pas là qu'on en attend le plus finalement?
À ce front de l'attaque, c'est vraiment le gros chantier de Vladimir Petkovic au cours des prochains mois. Postulant pour les postes offensifs dans l'axe principalement, mais les candidatures qu'on va qualifier de convaincantes ne sont pas légion. Aucun joueur notamment ne semble tenir la corde à la pointe de l'attaque. Josip Drmić, qui a débuté les deux derniers matchs de l'équipe de Suisse à ce poste de numéro 9, n'est pas présent. Haris Seferovic et Mario Gavranovic n'ont pour le moment pas vraiment convaincu. Il y a toujours Brelem Bolo ou alors le petit nouveau Albian Ayeti qui va vraiment pouvoir s'installer durablement à ce poste. C'est une des questions questions sur le front de l'attaque. Et puis l'autre, c'est l'absence de Blerin Zemaili, qui avait l'habitude de jouer un soutien de l'attaquant dans le dispositif de Vladimir Petkovic, un espèce de faux 9,5, de faux 10 ou de 9,5, comme on dit dans le jargon du football. Alors là, un élément de réponse, c'est Djerdan Shaqiri qui devrait prendre ce poste-là, qui devrait glisser dans l'axe. Et puis un joueur le remplacera sur le côté droit. Reste à savoir lequel. Ce qui est clair, c'est que si la Suisse veut passer ce fameux cap, veut franchir cette étape-là, il faudra régler en tout cas en partie ce problème offensif, ce problème de marquer des buts et de transition offensive durant cet automne.
Voilà peut-être du changement à venir sur le plan offensif. Qu'en est-il du secteur plus défensif? On a davantage de stabilité, on peut s'appuyer dessus cet automne?
Il y a peut-être un peu plus de stabilité, en tout cas on va moins parler de chantier. Il y a quand même certaines incertitudes. La première, c'est Fabian Schär, qui est bien tout juste d'arriver en Angleterre dans le club de Newcastle et qui semble déjà en difficulté. Il n'a disputé qu'un seul match, même pas dans son intégralité. Il était tout de même présent à la conférence de presse, la traditionnelle conférence de presse d'avant-match ce soir, ce qui est peut-être un signe. Vladimir Petkovic pourrait garder confiance et conserver sa confiance en Fabian Schär. Il y aurait Johan Jourou pour le remplacer, mais on ne sait pas trop non plus ce que le sélectionneur va faire de ces vieux, entre guillemets, si vous me passez l'expression. Et puis, il y a le cas Lichtsteiner qui s'inscrit dans cette même tendance-là. C'est le capitaine de cette équipe de Suisse. C'est un des leaders sur le terrain. Mais est-ce qu'il va faire les frais de ce rajeunissement? C'est une question qui reste là aussi ouverte. Certainement qu'on aura plus d'éléments de réponse dès demain soir. En tout cas, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez sont indéboulonnables pour le moment.
Voilà Julien Traxel, c'est donc vous qui allez suivre le début de cette Ligue des Nations avec la Nati Suisse-Islande ce samedi à 18h à Saint-Gall. Les Helvètes qui vont enchaîner en se rendant en Angleterre mardi, ce sera là pour une partie amicale. Merci pour cet éclairage et puis bon match à vous.
Merci et bonne soirée.
Cap Sport jusqu'à 19h.
Direction les Grisons. À présent, les championnats du monde de VTT se tiennent jusqu'à dimanche à Lenzerheide. La Suisse a commencé ses mondiaux très fort. 3 titres sur les 5 premières compétitions. Le relais par équipe mercredi, l'épreuve en ligne des espoirs hier avec le chaudefonnier Alexandre Balmer. Et puis la course féminine des moins de 23 ans cet après-midi avec un doublé helvétique. Ça fait déjà 4 médailles au total. La moisson est bien lancée. Bonsoir Marcel Neuenschwander.
Bonsoir.
Vous êtes à Lenzerheide, vous ne pouviez finalement pas mieux choisir votre lieu de vacances pour faire la fête?
Alors je ne vous préciserai pas si je fais la fête, ce qui est sûr par contre Mathieu, c'est qu'il y a réellement ambiance de fête ici du côté de Lenzerheide sur ce site des championnats du monde de VTT, et ceci pour plusieurs raisons. La première, vous l'avez dit, cette razzia de médailles, 3 titres de la part de l'équipe de Suisse, c'était surtout très bien parti avec le team suisse qui a mis sur orbite en quelque sorte mercredi l'événement. Dans ce team suisse, il y a un certain Nino Schurter qui est la star mondiale du VTT mais aussi la star locale puisqu'il habite à quelques kilomètres du côté de Coire.
Oui, effectivement. Les Grisons qui ont l'habitude de faire la fête avec le sport, on pense souvent au ski alpin, les finales de Coupe du Monde, les épreuves de Coupe du Monde aussi. Est-ce que l'ambiance sur ces championnats du monde, ça peut ressembler à cela, des publics qui se mélangent, les nations qui font la fête ensemble?
Oui, c'est une ambiance réellement de fête des vendanges, c'est ce qu'on a envie de dire ici du côté de Lenzerheide. Et puis effectivement, les nations se mélangent, il n'y a pas d'animosité entre le public, réellement tout le monde apprécie tout le monde en quelque sorte. Il y aura très certainement plusieurs dizaines de milliers de spectateurs ce week-end, notamment pour le cross-country où Nino Schurter devrait peut-être additionner un nouveau titre à sa précieuse collection de médailles, déjà 6 titres de champion du monde, 6 classements en général de la Coupe du Monde remportés. Un titre olympique en 2016, Nino Schurter qui est à n'en pas douter, la star locale on l'a dit, à n'en pas douter le favori de la compétition. Et puis cet événement se clôturera dimanche par la descente toujours très spectaculaire.
Vous le dites, des milliers voire des dizaines de milliers de spectateurs attendus, c'est un public de connaisseurs où on trouve aussi monsieur et madame tout le monde, quelques curieux par là au milieu.
Je ne sais pas s'il faut parler de curieux, mais c'est un public d'amoureux du vélo, ça c'est sûr, mais pas seulement. montée du vélo général des sports d'endurance. Et n'oublions pas non plus que nous sommes dans les Grisons où le sport d'endurance, c'est peut-être le sport majeur, que ce soit le ski de fond, le VTT, justement la course à pied. Donc on apprécie ça ici du côté des Grisons. Et puis de nouveau, ce public, mais c'est un public qui connaît Nino Schurter. Hein. Ça fait beaucoup, qui connaît Nino Schurter. Et puis des championnats du monde, bien évidemment, ce n'est pas organisé toutes les années en Suisse. Donc on peut venir de très loin pour les suivre. Qui plus est, les Grisons, c'est proche de l'Italie, par exemple, de l'Autriche, de l'Allemagne. Donc on vient de plus loin pour suivre des championnats du monde de VTT. Et surtout, ce qui est frappant, c'est que désormais le VTT, par rapport peut-être à la course sur route, en termes d'organisationnel, d'importance de l'événement, ça n'a plus rien à... Ça a la même ampleur, hein, ça c'est sûr, parce qu'il y a des constructeurs, il y a véritablement beaucoup de sponsors, de partenaires qui sont là. On l'oublie quelque peu, c'est moins médiatisé peut-être, mais pourtant je vous promets qu'en championnat du monde, eh bien, véritablement, on voit bien que ce n'est pas une joute locale, une petite manifestation qui se déroule, une petite course régionale.
Voilà des mondiaux qui nous réservent peut-être encore des médailles dans le camp suisse, on l'espère en tout cas avec Nino Schurter, avec Yolanda Neff aussi, avec peut-être la biennoise Emilie Siegenthaler, ce sera dimanche sur la descente féminine. Marcel Neuenschwander, vous étiez donc en direct de Lenzerheide. On va vous laisser aller faire la fête, aller continuer tout cela avec ce public des championnats du monde de VTT. Bonne suite de séjour à vous.
Merci beaucoup. Au revoir.
Cap Sport.
Et puis en guise de dessert, aujourd'hui on vous propose un gros gâteau d'anniversaire. Un gâteau avec 50 bougies. 50, c'est l'âge du club de lutte de la vallée de Tavannes. Il fête ce cap ce week-end dans le Jura bernois avec notamment l'organisation de la fête fédérale de lutte féminine. C'est ce samedi à Cours. Jérôme Repsamen, vous en êtes le président de ce club. Bonsoir.
Bonsoir.
Pourquoi miser sur la lutte féminine pour fêter un 50e anniversaire ?
Alors, la lutte féminine, on pensait la développer au sein de notre club de lutte depuis quelques années déjà. Et puis, le 50e anniversaire était une bonne opportunité de conjuguer les deux manifestations pour nous, histoire de lancer l'affaire.
Une fête fédérale féminine, c'est comparable à son pendant masculin. On se souvient, par exemple, il y a 2 ans, de la dernière à Estavayer-le-Lac. Elle avait réuni 260 000 visiteurs.
Alors non, absolument pas. On a clairement deux choses différentes entre la lutte féminine et la lutte masculine. On ne peut absolument pas comparer ça à une manifestation comme Estavayer.
À bien vous comprendre, il y a encore un véritable fossé entre la lutte masculine et la lutte féminine.
Oui, alors le fossé est là et puis c'est vraiment deux choses totalement différentes dans le sens où la Fédération féminine de lutte suisse ne fait absolument pas partie de la Fédération masculine de lutte suisse.
Au niveau du spectacle, qu'est-ce qui change aussi entre de la lutte masculine et de la lutte féminine ?
Alors de ce côté-là, les règles elles sont absolument identiques, les durées des combats aussi. Il n'y a pas grand-chose qui peut changer entre les deux combats.
Mais vous voyez, au niveau de la technique, peut-être une approche un peu différente ?
Peut-être une approche un petit peu différente, peut-être... Une lutteuse ne va pas forcément utiliser que la force pour lutter. Elle devra peut-être aller dans une partie un peu plus technique pour venir à bout de leur adversaire. Dans les lutteurs, on voit beaucoup plus certains lutteurs qui ne sont peut-être pas très techniques utiliser uniquement leur force pour venir à bout de leur adversaire.
L'importance de la lutte féminine aujourd'hui en Suisse, quelle est-elle ?
La lutte féminine a débuté à la fin des années 80, début des années 90, et puis on compte environ 200, on va dire, licenciés sur tout le pays, donc on est vraiment dans les débuts.
Mais c'est clairement une discipline qui se développe encore, on n'est pas avec ces 200 participantes aujourd'hui à l'apogée de la lutte féminine.
Non, absolument pas, je pense que la lutte féminine se développe d'année en année, et puis attire de nouvelles adeptes.
Dans la région, vous rencontrez des réticences. C'est difficile d'attirer des jeunes filles, des jeunes dames dans la lutte féminine ?
Alors écoutez, je ne sais pas vraiment si c'est difficile. Ça ne fait pas longtemps qu'on y travaille. C'est clair que ça peut être un petit peu... on peut avoir un peu des préjugés là-dessus. Et puis c'est clair que la sciure n'est peut-être pas autant propre qu'un tatami. Alors c'est clair que de ce côté-là, ça peut un petit peu retenir les jeunes filles, ça c'est clair.
Justement, vous entendez certains clichés encore aujourd'hui quand vous parlez autour de vous de lutte féminine, quand vous évoquez un peu cette fête fédérale?
Oui, alors c'est clair que c'est quelque chose de nouveau, et puis les nouvelles choses peuvent surprendre parfois, comme dans ce cas-là. Les clichés sont bien là, mais c'est clair qu'il faut passer au-dessus et vraiment, voilà, vraiment tester pour s'en rendre compte.
Est-ce qu'il y a des attentes particulières pour votre club, notamment avec l'organisation de cette fête fédérale féminine de lutte?
Oui, alors c'est clair qu'on n'a pas d'omelette sans casser des œufs, donc on se sentait un petit peu obligé de lancer l'affaire avec une fête de lutte dans notre région. Notre région n'a jamais accueilli de lutte féminine, donc lutte suisse féminine. Donc en organisant cette fête de lutte, je pense que c'est une bonne entrée en matière pour faire parler de la lutte féminine.
Jérôme Rebsamen, le club de lutte de la vallée de Tavannes fête donc son 50e anniversaire ce week-end. La jeunesse dans tout cela, quelle est sa place dans votre société?
La jeunesse est très très bien représentée au club de lutte de Tavannes. On a la chance de ne jamais avoir eu de grands trous dans notre société. On a toujours fait en sorte pour assurer la relève en faisant de la promotion pour notre sport.
Quelles sont les valeurs justement que vous transmettez à ces jeunes?
Alors c'est pour les jeunes, c'est déjà une bonne école de vie, et puis le respect de l'autre, le fair play sont les maîtres mots de ce sport. Et puis je pense qu'avec toutes ces choses-là, c'est vraiment une excellente camaraderie qui règne au sein du club. Après, c'est clair qu'un combat reste un combat, mais le combat commence par une poignée de main et se termine également par une poignée de main. Ce qui se passe entre deux, c'est la lutte, quoi.
Pas trop de brutalité, donc?
Alors, si les combats de lutte peuvent être extrêmement brutaux, ça c'est sûr, mais toujours dans un certain respect, il y a des règles très précises à respecter. Et puis voilà, c'est pas un sport de bisounours non plus, comme on dit.
Ouais, exactement. Un club cinquantenaire, c'est un club qui a trouvé la bonne formule, ou bien vous devez encore constamment vous renouveler d'année en année?
Alors, nous renouveler constamment, je dirais non, mais c'est clair que pour garder la tête à la bonne hauteur, on doit sans cesse trouver des nouveautés, améliorer nos façons de promouvoir le sport, notre façon de faire aussi. C'est un ajustage constant. On doit s'adapter aux règles actuelles, de promotion qu'on peut avoir.
Parce qu'il faut le dire aussi, la lutte reste un sport majoritairement alémanique. Ça, c'est clairement une difficulté en plus quand on est dans une région romande, attirer les jeunes dans un sport alémanique?
Non, pas vraiment. Je pense que on profite aussi des fêtes fédérales de lutte comme Estavayer qui ont eu lieu sur le territoire romand. Je pense que à chaque édition d'une fête fédérale en Suisse romande, on peut surfer sur une bonne vague en Suisse romande. Pour nous, c'est du pain béni, comme on dit.
Et vous voyez un réel potentiel. On peut encore développer ce sport-là en Romandie?
Oui, absolument. D'ailleurs, les lutteurs de la Suisse romande ont actuellement une équipe qui est en train de percer, comme on dit. Et puis, je pense qu'à la fête fédérale de 2019 à Zoug, ils vont très certainement décrocher des nouvelles couronnes fédérales. Eh bien, ce qui va booster encore un peu plus la lutte dans notre région.
Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, Jérôme Rebsamen, président du club de lutte de la vallée de Tavannes. Un club, on le rappelle, en fête ce week-end. C'est le 50e anniversaire. Merci pour cet éclairage. Et puis, belle fête à vous.
Merci à vous.
Et c'est ainsi que s'achève Cap Sport pour aujourd'hui, votre émission sportive qui revient bien entendu la semaine prochaine. Vous pouvez en tout temps d'ici là écouter ou réécouter les précédents numéros. Ils sont en podcast sur notre site internet. Très beau week-end.
Cap Sport.